Bonjour à toutes et à tous. Merci. Il y en a deux qui sont réveillés ce matin. Les autres, vous dormez? Non, vous dormez pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour entendre le message? J'espère que vous allez encore m'aimer après. Mais voilà, donc on a chanté il y a quelques instants. Prends mon âme, prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est enclin à chanter des choses et quand on sort après du culte, on reprend notre vie habituelle. Et pourtant, on a chanté « Je te donne tout ». Mais est-ce que c'est vrai ou c'est un mensonge ce que nous avons chanté? Parce que c'est écrit, là, on répète ces paroles, mais est-ce qu'on les vit vraiment? Non, je suis sérieux ce matin. C'est important ce qu'on dit là. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alors j'aimerais simplement introduire ces moments pour faire suite au message que nous avons eu ensemble, que nous avons partagé ensemble le 24 juillet dernier sur tout ce qui était idolâtrie. Vous vous rappelez, on a parlé de l'idolâtrie pour ceux qui étaient présents. Et j'aimerais simplement introduire ces moments par ces quelques phrases qui vont peut-être vous surprendre, mais j'ai vraiment envie de les dire quand même parce que c'est une réalité. L'Église s'est mise à copier le monde au lieu de le transformer. Est-ce que c'est vrai? Elle a voulu être cool, elle a voulu être accessible, moderne, pour plaire, mais elle a voulu mettre de côté tout ce qui dérange. Alors je ne parle pas du tout des messages que j'ai entendus quand j'étais jeune, qui étaient légalistes, vous savez. Il faut, et quand on sortait du culte, on savait plus ce qu'il fallait faire, et on était plutôt dans la peur, dans la crainte, qu'autre chose. Mais l'Église, avec un grand E, a perdu la puissance de son message. Petit à petit, la prédication est devenue comme un spectacle. Moi, il y a des moments, je vois des prédicateurs, et j'ai envie de fermer le poste, de plus regarder, parce que je me dis, mais ces gars-là, ils font un show devant le public et ils s'attirent les bonnes grâces et parfois ils sont hardis dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent. Mais c'est devenu un spectacle et les serviteurs deviennent des coachs, les messages deviennent des motivations et l'Évangile devient un produit marketing. Et tout cela n'a rien à voir avec tout ce que les apôtres prêchaient. Est-ce que vous pouvez lire dans la Bible? Et le danger du christianisme pragmatique, ce truc qui dit que tout ça attire les gens parce que Dieu bénit, moi j'y crois pas un rond. Le critère n'est pas est-ce que ça plaît, mais plutôt est-ce que c'est fidèle à la parole de Dieu? Est-ce que c'est conforme à ce que la parole de Dieu dit? La Bible dit bien que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Elle est éternelle. Et ce que Dieu a dit, il l'accomplit. D'ailleurs, la terre, tout ce qui environne la terre, l'univers, tout a été créé par la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais les gens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont pas nés du pouvoir de la chair, mais ils sont nés de l'Esprit de Dieu. Alors, certaines églises ont remplacé la vérité par des émotions. On veut que des gens ressentent Dieu, mais pas forcément, on ne veut pas forcément qu'ils obéissent à Dieu. Et quand l'Église commence à divertir les gens, elle ne peut plus rester l'Église qu'elle doit être. Le message de l'Évangile n'a pas besoin d'être amélioré. Il est déjà parfait. Il est déjà puissant. Mais il faut que les prédicateurs, les croyants, n'aient pas honte. Et Paul dira, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que ça décape? Moi, ça me décape de toute façon. Les gens veulent une foi sans persécution, une église sans tension, un Jésus sans exigence, et l'évangile dérange. On peut parler d'avoir peur de témoigner aujourd'hui, de parler sans pour autant choquer. Mais mes amis, le Seigneur veut vraiment nous révolutionner. Moi, si je vous parle de ça, c'est que j'ai envie qu'on soit un corps, mais un corps uni. Et je crois que l'un des prochains messages, ça sera l'unité au milieu de nous. D'être un. Pas quelques-uns qui marchent avec Dieu, mais que tout le peuple qui compose notre famille spirituelle aime Dieu profondément, le craigne et aille de l'avant pour que son nom soit glorifié. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce programme? Sans ça, on n'y arrivera pas. Alors, je voudrais résumer ce que nous avons vu la dernière fois. Le cœur de l'idolâtrie, ça n'a rien à voir avec les statues, avec les icônes, avec les autels, avec des temples particuliers. Ça, c'est l'idolâtrie que l'on trouve dans le monde. Mais les choses ne sont pas des sous-produits d'un... Ces choses ne sont que le sous-produit d'un problème qui est plus profond. Et l'idolâtrie, c'est lorsque l'humanité met de côté ce que Dieu désire clairement. Et ça satisfait les envies, les désirs qui sont contraires. Et il y a donc des lois pernicieuses qui se mettent en place. Et on est horrifié. Moi, je me rappelle quand j'étais encore sur Paris, j'ai défilé contre tout ce qui était la loi pour le mariage pour tous. Et j'ai fait partie du défilé. Et j'étais vraiment en colère par tout ce qui se mettait en place, et on avait l'impression que même si on manifestait, ça servira à rien, c'était décidé, et ça allait se mettre en place. Pire, maintenant c'est dans la Constitution, l'avortement. Vous vous rendez compte, c'est jusqu'où on est allé, on parle de la loi sur l'avortement, et le début de vie, on n'en a que faire. Et puis la fin de vie maintenant, je pense que ça coûtera tellement cher de soigner des gens, qu'on préférera les laisser mourir en leur donnant quelques piqûres pour les calmer, pour calmer la douleur, mais c'est tout. Eh bien mes amis, on est dans ce contexte, et ça résulte de cette convoitise, de cette vision qui est déformée de Dieu. Par contre, lorsqu'une personne se tourne vers l'idolâtrie, Dieu se retire, et Dieu la renvoie à sa nature déchue, pour qu'elle se livre à des choses honteuses qui lui inspirent des désirs corrompus, des désirs charnels, des désirs naturels. Les plaisirs, la jouissance, les divertissements l'amènent dans une direction qui finalement produit la mort plutôt que la vie. Et ce scénario n'est pas simplement lorsque la personne est incroyante. Je veux parler aussi du monde des croyants. Un chrétien devient idolâtre à partir du moment où il désire à tout prix obtenir quelque chose, même si ça va à l'encontre de ce que Dieu dit. J'en ai l'exemple dans ma famille, malheureusement. On a eu l'occasion, il y a quelques mois en arrière, d'essayer de raisonner deux membres de ma famille, enfin deux personnes de ma famille, qui étaient décidées à faire des choses que je ne veux pas nommer ici, j'ai pas besoin de les salir publiquement, mais simplement... On les entendait suivre une voie et on leur a dit « Mais non, la parole de Dieu dit autre chose. » Et on les a entendus commencer à faire une sorte de... à couper le contrat à coup de canif pour que la photo rentre dans le cadre, vous savez, dans leur cadre à eux. Et donc ils prennent la parole de Dieu et puis ils la mettent à leur sauce et ils sont en train même de dire ce que Dieu n'a pas dit pour se convaincre qu'ils ont raison. Mais la situation est différente lorsque un croyant qui tombe dans le péché se met à se repentir. Le Seigneur est là pour pardonner, le Seigneur est là pour purifier, le Seigneur est là pour remettre les choses en ordre. Ce croyant ou cette croyante a élevé son propre désir au-dessus de la volonté de Dieu. Et quand on fait cela, mes amis, on se fabrique des idoles. Je vais vous rappeler quelques exemples. Il y en a un qui m'a vraiment frappé. Puis cette semaine, j'étais aussi frappé par un autre récit. Je vais en parler tout à l'heure. Le premier exemple, c'est Achan. Achan, dans le livre de l'église Josué, Achan, qui a reçu une instruction très très claire concernant tout ce qui provenait de Jéricho et qui devait être consacré au Seigneur. Pourtant, il a été pris sur le fait... Et voici ce qu'il a confessé, Josué, chapitre 7, verset 21. Écoutez ça, les sens, les cinq sens sont à l'honneur là. C'est notre chair, les cinq sens. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 sicles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 sicles, et je les ai convoités. Je les ai pris, et je les ai cachés. Vous voyez, je les ai cachés. Ça me fait penser au jardin d'Éden, on va en parler tout à l'heure, Adam et Ève, quand ils ont vu qu'ils étaient nus, ils se sont cachés loin de la face de l'Éternel. Donc, je les ai pris, je les ai cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. La Bible en français courant traduit ce verset, j'en ai eu tellement envie. Et à quand considérer que ces exigences de Dieu étaient moins importantes que ses désirs à lui qui étaient personnels? Il n'avait pas la sainte crainte de Dieu et il a désobéi sciemment. Et on voit la suite, ça a attiré le jugement sur lui-même, le jugement sur sa famille. Et ça a provoqué aussi une paralysie sur la communauté. Israël est devenu faible, Israël est devenu incapable de conquérir d'autres nations à cause du péché d'un seul. Et ça m'a frappé parce que je me suis dit, mais Seigneur, mon propre péché peut paralyser cette église. Ton propre péché peut paralyser cette église ou la rendre plus faible, vulnérable. Et c'est là que le Seigneur nous interpelle, mes amis. Parce que c'est vrai que la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Différente de celle qu'il a été. Et on voit dans la parole de Dieu que, finalement, quand Paul va parler de sa propre nature, il dira à un moment donné, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est Christ qui vit au travers de moi. Ça, c'est vrai. C'est vraiment important. Le deuxième exemple que je voudrais partager avec vous, c'est l'exemple de l'église de Corinthe. Je ne sais pas si vous avez été surpris en lisant les premiers chapitres de la première épître de Paul aux Corinthiens. Cette église avait pris l'habitude de satisfaire ses propres désirs charnels au détriment de ce que Dieu lui avait révélé. 1 Corinthiens 3:3, en effet, dira Paul, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, ça c'est la chair, des disputes, ça c'est la chair, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Il vivait dans les jalousies, il vivait dans les divisions, les disputes, les adultères, et tout le monde fermait les yeux. Vous vous rendez compte? Puis après ils se rassemblaient lors du culte dominical, dans les maisons ou dans les synagogues, et ils se faisaient des procès les uns les autres. Et lorsqu'ils se réunissaient pour partager le repas du Seigneur, ce repas ne rappelait vraiment pas ce que Jésus avait accompli à la croix du calvaire. Chacun ne songeait qu'à satisfaire ses propres désirs charnels. Et en poursuivant ce besoin de satisfaction, il désobéissait sciemment, consciemment, aux instructions divines. Et c'est la raison pour laquelle Paul va finir par dire, 1 Corinthiens 11, versets 33 et 34, « Ainsi mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns aux autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, parce qu'il se goinfrait. Non seulement ça, mais il buvait, et certains même étaient ivres, alors qu'ils étaient dans la maison du Seigneur. Et donc, ils arrivaient au repas de la scène, et Paul va leur dire, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Attention, ça va barder. À cause de leur convoitise idolâtre, un grand nombre d'entre eux étaient devenus faibles. Certains d'entre eux étaient malades, tombés malades, et d'autres même en sont morts. On le lit souvent lorsqu'on ne prend pas cette scène avec discernement. Voici ce que ça peut entraîner. Ensuite, on a un troisième exemple, et on en a partagé ensemble quelques brides. Ce sont les destinataires de l'épître de Jacques. Et je vous avais dit la dernière fois, quand Jacques a dit, on ne badine pas avec ce que Jacques dit. Et donc, ils connaissaient le même genre de situation. Ils étaient remplis de jalousie, les uns à l'égard des autres, mus par des ambitions égoïstes. Et ils avaient des luttes et des disputes. Alors, voici ce que dira Jacques au chapitre 4, versets 2 et 3. « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir parce que vous avez des querelles, vous êtes des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, vous demandez, vous ne recevez pas. Écoutez pourquoi. Vous demandez, mais dans le but de satisfaire vos passions. C'est fort, hein? C'est pas moi qui le dis, hein? C'est la Bible. C'est la Bible que vous avez entre les mains. Et une fois de plus, nous voyons des croyants qui pratiquent le péché pour satisfaire leurs désirs égoïstes. Jacques les a appelés, on l'a vu la dernière fois, adultères. Parce que ils croyaient en Jésus, ils étaient mariés avec Jésus, mais ils restaient mariés à des idoles et ils fréquentaient l'adversaire de nos âmes. Et ça, c'était grave. L'idolâtrie, c'est pas simplement du péché, c'est la pratique consciente et intentionnelle du péché. Il y a aussi Adam et Ève qui ont, vous le savez, convoité ce qu'ils ont perçu comme étant bon, bénéfique, comme étant bienfaisant, agréable à la vue, capable même de leur donner une intelligence supérieure qu'ils n'avaient pas. Et le diable en a rajouté des couches. Il en a profité. Lorsqu'il a dit, mais pourquoi vous ne mangez pas de ce fruit? Le Seigneur, Dieu nous a dit de ne pas en manger. Mais non! Vous connaissez le menteur et le père du mensonge? Le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors la femme, quand elle a vu le fruit, elle a vu qu'il était beau, qu'il était bon à manger, et elle en mangea. Et elle en donna même à son mari, qui lui aussi en mangea. Et tout à coup, boum, le désastre arriva. Une fois que nous adoptons cette ligne de conduite, la tromperie s'installe. Nous sommes convaincus d'être toujours en bon terme avec Dieu, mais ce n'est pas le cas. Vous vous rappelez, lorsque Samson, on lui a coupé les mèches, alors que sa force résidait dans sa chevelure, il a dit une chose qui m'a frappé, « Je m'en tirerai comme les autres fois ». Mais il ne savait pas une chose, c'était que Dieu s'était retiré de lui. Et lorsqu'il a essayé de faire des choses, il était incapable de les faire. Parce que sa consécration à Dieu avait été coupée. Et ça, c'est vraiment important. Dieu devra envoyer, donc, pour chacun de nous, pour tous ceux qui vivent dans cet état de désordre, un messager, un apôtre, un prophète, un pasteur, ou des gens qui nous aiment et qui tiennent suffisamment à nous pour nous dire la vérité et pour nous conseiller. Cette semaine, je relisais encore ce récit. Ce récit de Bathsheba lorsqu'elle a été violée finalement par vous savez, ce récit est quand même fort. David, lorsqu'il se promenait sur sa terrasse, tout à coup il voit une belle femme en train de se baigner et finalement il demande qui elle est et puis il descend, il va chez elle, il couche avec elle, elle devient enceinte et son mari était au fort du combat. Et vous connaissez la suite, bien sûr, David s'est arrangé pour essayer de faire en sorte que son péché soit couvert. Il invite donc Uri, son mari, à venir, revenir chez lui, à dormir dans sa maison. Comme ça, il se dit, ça y est, mon péché sera couvert. Mais l'autre n'a pas voulu, il a dit, mais comment mes amis qui sont à la guerre, ils sont dehors en train de combattre et moi j'irai dans ma maison auprès de ma femme? Non, je ne ferai jamais une chose pareille. Alors David lui offre des cadeaux, il essaye de le persuader. Le lendemain, il recommence et Uri reste couché sur le seuil de sa porte, il ne rentre pas dans la maison. Alors David va dire qu'on le mette au plus fort du combat. Et là, ce qui se passe, c'est que Uri meurt dans le combat. Et il y en a un qui est content parce que finalement, comme il est mort, on ne sait pas qui sera le père. Donc son péché, il va être caché. Mais il y en a un qui est venu le voir. Et vous connaissez son nom, c'est Nathan le prophète. Et Nathan va lui raconter une histoire. Et lui va se mettre en colère en disant, mais cet homme mérite la mort. Cet homme, c'est toi. C'est ton histoire. Et c'est là qu'il est dévoilé, la lumière est sur sa vie. Il se repent, mais il va perdre cet enfant qui était dans le ventre de sa femme, parce qu'il s'est marié avec elle. Il va naître et plus tard il va décéder. Mais plus tard il va mettre au monde Salomon et vous connaissez la suite de l'histoire. Le premier chapitre de Paul aux Romains explique que ceux qui se baignent dans ce genre d'agissement étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. Il est dit dans le chapitre 1, verset 18 de Romains, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Il dira au verset 21, « Ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Et voici ce que dira Jacques, « Mettez en pratique la parole. » Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Et souvent, je vous ai dit, pour ma famille, les membres de cette famille, ils ont aligné de faux raisonnements pour essayer de se justifier. Mais on connaît la parole de Dieu. Ils ont beau nous raconter un tas de trucs, d'histoires qui veulent les couvrir, mais ce que dit la parole de Dieu reste la vérité, mes amis. Alors, lorsque nous entendons clairement la parole de Dieu et que nous ne lui obéissons pas, quelque chose se produit en nous, ça s'appelle la tromperie. Et c'est faire accepter comme vrai ou valable ce qui est faux et non valable, c'est la tromperie. Et la désobéissance intentionnelle n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Seigneur, merci pour ta parole. Jacques nous dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à quelqu'un qui se regarde dans un miroir, qui s'en va et qui oublie ce qu'il a vu dans le miroir. Les personnes qui entendent la parole de Dieu et qui n'y obéissent pas, oublieront ce que Christ a dit et ils oublieront même Christ. Elles se comporteront d'une certaine façon dans l'église, dans des petits groupes, dans des lieux d'études bibliques, par exemple. Mais en sortant, elles vont avoir une autre attitude et elles vont être exactement comme les gens de ce monde. La parole de Dieu, c'est un miroir. Et par conséquent, lorsque les personnes qui sont placées devant son miroir le regardent, elles adoptent leur comportement, elles fuient. Et puis on cite après, elle se détourne de la voie royale. Dieu sait que nous sommes des êtres coupables, des êtres déchus, des êtres qui marchons non pas dans une sainteté totale, mais qui essayons d'avancer couverts par sa grâce. C'est le langage qu'on peut entendre à droite et à gauche. Mais voulons-nous, mes amis, que notre attitude, nos choix, anéantissent des forces surnaturelles d'ambassadeur pour Christ. Vous savez, lorsque on est en bonne santé, on a la force. Mais si on attrape un virus, qu'est-ce qui se passe? On devient faible. Vous avez remarqué? Du jour au lendemain, on est incapable de faire quoi que ce soit. On voudrait, mais le corps nous dit, non, tu n'y arriveras pas. Alors on préfère s'asseoir, ou parfois même se coucher, parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Vous connaissez ce genre d'attitude? Un virus, nous, bien la puissance du péché fait la même chose. Elle nous affaiblit. Et elle tente à nous rendre faibles. Et on s'accroche, et on s'accroche. Mais on s'aperçoit que petit à petit, jour après jour, on perd du terrain avec Dieu. Et ce que je voudrais vous dire ce matin de la part de Dieu, et je me mets avec vous dans le même panier, Seigneur, nous avons vraiment besoin de ta grâce. Mais nous avons besoin de nous retremper dans ta présence. Que dira Jacques? Approchez-vous de lui, finissez ce verset, et il se rapprochera de vous. Dieu ne met pas dehors celui qui vient à lui. Jésus est rempli de compassion. Quand on vient à lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et la Bible nous dit que nous avons un avocat dans le ciel, auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire, non seulement pour nos propres péchés, mais pour les péchés du monde entier. Nous avons un avocat. Nous avons quelqu'un qui prend notre défense parce qu'il nous aime. Dieu est amour. Et si je vous parle de cela, mes amis, c'est parce que je crois vraiment qu'il nous faut revenir à la vérité de la parole de Dieu. Il faut que nous revenions à lui de tout notre cœur pour que son nom soit sanctifié par nos vies. son nom soit sanctifié. Le nom de Jésus est souvent sali par nos attitudes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous voulons dire ce matin, Seigneur, nous croyons que ta parole est la vérité. Nous croyons que ta parole est puissante. Si vous dites Amen, ça me fera plaisir.
Amen.
Ça va. Il n'y a pas beaucoup d'Amen quand même. Hein. La parole de Dieu est puissante.
Amen.
Et un peu plus là.
Amen.
Oui. Non, je chauffe la salle. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure en préambule. Hein. Non, la parole de Dieu est puissante. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Et moi, je suis triste. Je veux voir une onction de miracle se manifester dans le corps de Christ local. Nous voulons voir des miracles. Nous voulons voir la lumière de Dieu toucher des personnes qui vivent dans le péché, dans les ténèbres. Nous voulons les voir se mettre à genoux devant Dieu en disant « Seigneur, aie pitié de moi. Je crois en toi. Je crois que tu es le sauveur du monde. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Efface la dette de mon péché parce que tu es mort pour cela. » On veut voir des conversions, on veut voir des guérisons, on veut voir des libérations de vie, on veut voir des vies transformées, on veut voir des quartiers atteints par l'Évangile. Seigneur, merci pour l'Église qui est en France. Mais malheureusement, l'Église est silencieuse. Quand il y a quelque chose, une loi qui passe, elle prie. Oui, c'est bien. Mais prie et agit. L'action. Et souvent, on a peur. Et on a peur des représailles, on a peur de ceci et de cela. Je relisais cette semaine quelque chose, je vais terminer par cela, qui montrait que dans les pays où il y a vraiment une forte pression de la part des gouvernements, les chrétiens ne peuvent pas se rassembler. Et ils vivent cachés. Même parfois, quand on prend leur portable et qu'on voit qu'il y a la Bible dedans, on les emprisonne et parfois même on les exécute. Et je me dis, nous, chrétiens, parfois il y a la pluie, on l'attend, on la veut cette pluie. On ne vient pas. Je me rappelle, quand, là où on était à Montgeron, pas loin de Brunois où on habitait, on avait une petite cellule de maison et on était reçus chez un couple qui avait transformé son sous-sol en lieu de réunion. Et donc, ils habitaient en haut, et puis en bas, c'était une salle de culte. Bien, vous me croirez si vous voulez. La femme travaillait, elle rentrait du travail, il pleuvait. Elle n'avait pas envie de descendre parce qu'il avait plu, parce que ses chaussures avaient été mouillées. Elle ne descendait même pas, Mathéen, hein, elle ne descendait pas. Et je pense à tous ceux qui sont dans la persécution. Bien souvent, nous avons un tas de prétextes pour ne pas venir dans l'assemblée des chrétiens, du culte. Mais vraiment, je me dis, mais ceux qui vivent la persécution, comment voient-ils ce genre de comportement que nous avons? C'est pour ça que je voudrais vraiment qu'on aille dans le sens que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes une famille, mais nous sommes un. Nous sommes un. Et Jésus a prié pour que nous soyons un, comme lui et le Père étaient un. Alors Seigneur, parle-nous dans les semaines qui viennent. Et permets-nous vraiment de t'offrir nos vies. Et comme nous l'avons chanté tout à l'heure, prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Comment allons-nous ressortir de ce culte tout à l'heure? Nous avons le visage que nous avons ici même. Mais quand nous allons sortir, est-ce que nous n'allons pas reprendre notre masque habituel et le mettre sur notre tête pour paraître comme tous ceux qui sont autour de nous et pour nous dissimuler dans la foule incognito? Nous sommes l'armée du roi.
Amen.
C'est vous qui voyez. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le troupeau de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Seigneur, conduis-nous jusqu'à toi. Conduis-nous jusque dans ta présence. Que nos chaînes tombent. Que ce qui fait obstacle à ta présence dans nos vies tombe. Mais Seigneur, que tu puisses imprimer ta beauté divine dans chacun de nos cœurs. C'est ma prière et j'espère que c'est votre prière ce matin. Seigneur, change-nous. Seigneur, bouleverse-nous pour que nous puissions bouleverser à notre tour le monde qui nous entoure. Comment croiront-ils s'ils nous voient exactement comme eux? Si nous sommes différents, ils diront, peut-être ils vont nous combattre au départ, mais ils diront, je veux être comme cet homme, je veux être comme cette femme, je veux obtenir ce qu'ils ont, parce que nous sommes différents. Mais si nous montrons les mêmes choses qu'eux prônent, eh bien on va être leurs amis, leurs amis, mais rien ne va bouger. Seigneur, nous voulons être comme ces gens que Jason a reçus chez lui, acte 17, ces gens qui ont bouleversé le monde. Et Jason les a reçus. Vous rendez compte, Jason? Quel Jason? Jason les a reçus. Seigneur, merci parce que nous voulons te recevoir, toi. Transforme nos vies. Bouleverse nos vies. Bouleverse nos foyers. Bouleverse la vie de nos enfants. Bouleverse la vie de nos familles. Bouleverse la vie de nos collègues. Seigneur, que nous puissions être réellement le sel de la terre et la lumière du monde. Soyons bénis par ce message ce matin. Et simplement, nous ne bornons pas à écouter la parole de Dieu, mais mettons-la en pratique. Merci Seigneur pour ta grâce sur nos vies. Et merci Seigneur pour l'écoute de ton message. Seigneur, nous ne voulons pas être bien vus ou mal vus parce que nous avons dit ceci ou cela. Nous voulons prêcher ce que dit ta parole et ne rien en retirer, pas un iota, pour que nous puissions être acceptés par toi. Alors Seigneur, tu es le chemin, tu es la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Bouleverse nos vies. Transforme nos vies. Change nos conceptions. Que nous revenions à toi et que tous les compromis que nous avons mis en place en nous, que les forteresses, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de notre Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen à la parole de Dieu. Amen et Amen. Merci Seigneur.